science menace de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir découvrir les origines ultimes de ce cauchemar.
I think that's part of it too. I mean, if they really understood what was happening in Ireland, they would get themselves sorted out and stand on the right side here, because we identify very closely in our struggle for equality and our struggle against oppression. In fact, the whole inspiration of our civil rights movement 10 years ago came from the black movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad.
But this is where, you know, power comes into it. I mean, upper class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the chance to oppress the women they marry, their daughters.
Looking beyond that, then it would suggest that you would want a complete change in society.
Definitely.
Class change.
Definitely. Mm-hmm.
Si résister à la culture dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance.
Quand les enfants sont à vendre, les femmes sont du bétail, bienvenue sur Floraison. Je suis Lorenzo, aujourd'hui nous allons parler de GPA, la gestation pour autrui. Pour cela, je vous partage mes notes de lecture de Ventre à louer, une critique féministe de la GPA, un ouvrage coordonné par, j'espère que je prononce bien, Anna Luana, Stoïce Adéram et Marie-Joseph de Villers, publié aux éditions L'Échappée en 2022. C'est un livre rassemblant des textes féministes critiques de la GPA, évidemment, opposés à la GPA, cela va de soi. Ils sont récents ou anciens, traduits de différentes langues afin de les rendre le plus accessibles possible. C'est un livre qui offre un bon panorama sur le sujet, accompagné d'une généreuse bibliographie et en avançant 4 arguments principaux. 1. La GPA nuit aux femmes. 2. La GPA nuit aux enfants. 3. La GPA nuit à la dignité humaine. 4. La GPA accroît le pouvoir des puissants, hommes, riches, technocrates, et favorise l'eugénisme. En avant-propos, les coordinatrices exposent que, je cite, « La GPA est une cristallisation des violences faites aux femmes, et les tentatives honteuses pour la réglementer au niveau international, sans débat démocratique, sans information des opinions publiques, sans prise en considération des droits humains des femmes et des enfants, ne sont que la manifestation la plus emblématique de la domination patriarcale qui cherche par tous les moyens à s'assurer le contrôle des capacités reproductives des femmes au bénéfice des hommes et pour le profit du marché qu'ils gèrent. » Fin de citation. Puis elles annoncent leur objectif. Face aux forces du marché de la GPA, cet ouvrage constitue un acte de résistance et affirme que les droits des femmes, n'étant jamais définitivement acquis, doivent toujours être défendus avec acharnement. Alors, avant de se lancer dans le podcast, je rappelle qu'il existe aussi sous la forme article sur le blog, si vous préférez. Et voici son plan, il se divise en 6 parties. Dans la première partie, on verra la GPA en tant qu'industrie et technologie. Ensuite, on analysera ses nuisances pour les enfants. Puis, toutes les nuisances, nombreuses et terribles, qu'elle génère pour les femmes. Ensuite, on examinera quelques arguments pro-GPA. On verra ce qu'il en est. Puis, nous verrons les stratégies proposées par l'ouvrage pour en finir. Et enfin, quelques critiques. Première partie, qu'est-ce que la GPA ? Définition. Voici la définition donnée par les autrices. La gestation pour autrui est, je cite, « une pratique sociale dans laquelle une femme qui ne souhaite pas devenir mère est amenée à porter une grossesse et à donner la vie à un enfant à la demande d'autres personnes, dans le but de le leur remettre dès la naissance. Pour ce faire, elle est inséminée avec des embryons qui peuvent être obtenus avec ses propres ovocytes ou avec ceux d'une autre femme. Elle peut être payée, sous forme de rémunération, de dédommagement ou de récompense, ou, dans de très rares cas, ne pas recevoir d'argent. Mais quelle que soit la configuration dans laquelle l'embryon a été créé et quelle que soit l'entente financière, la mère porteuse, entre guillemets, subit des traitements hormonaux et de nombreux examens médicaux et gynécologiques, porte une grossesse et donne la vie à un enfant, qu'elle s'oblige à abandonner à la naissance, dans des conditions décidées exclusivement par le commanditaire, comme cela est clairement stipulé dans les contrats. Fin de citation. La GPA, une pratique ancienne. Historiquement, la pratique consistant à avoir un enfant en dehors du mariage est répandue dans certains pays d'Asie de l'Est. Ses premières formes de servante écarlate servaient aux riches et puissants à s'assurer les descendances, un devoir de la plus haute importance. Et les pauvres, eux, y voyaient un moyen de survivre. Aujourd'hui, la GPA est une véritable industrie. L'industrie de la marchandisation du corps des femmes et des enfants. En 2020, sa sordide réalité a été exposée quand des milliers de bébés se sont retrouvés piégés dans des hôtels en Ukraine, en Russie et en Géorgie, attendant d'être collectés par leurs acheteurs. Alors allons-y pour les chiffres. On estime qu'en Ukraine, sur les 3000 enfants produits par an par le biais de 45 agences, 99,99% le sont pour des étrangers. La moitié des enfants qui entrent en orphelinat en Ukraine sont des enfants refusés de la GPA. La GPA, une industrie en pleine croissance. Le chiffre d'affaires mondial des services liés à la gestation pour autrui devrait augmenter de 24% pour atteindre 27,5 milliards de dollars d'ici 2025. 27,5 milliards de dollars. Cette industrie est évidemment bien plus lucrative pour les médecins et les avocats que pour les mères porteuses. À titre d'exemple, en Inde, où la GPA rapporte plus de 400 millions de dollars par année, un rapport du Center for Social Research de New Delhi révèle que les cliniques conservent la majeure partie des honoraires et que les mères porteuses n'en perçoivent que 1 à 2% en moyenne. Ça c'est hallucinant. 1 à 2% des honoraires de GPA vont à la mère porteuse. Et moins s'il y a un problème avec la grossesse. Alors comme ça, on aura tout vu. Des entreprises jouent évidemment le rôle d'intermédiaire. On peut appeler ça des proxénètes de la maternité de substitution. Elles attirent des futurs clients à des séminaires, des foires aux bébés, comme en France, par exemple, le salon Désir d'enfant. Ces entreprises accroissent leur compétitivité et leurs profits de trois façons. 1. En réduisant les coûts du processus. Voilà, on imagine ce que ça signifie pour les mères porteuses. 2. En garantissant la satisfaction du client. 3. En évitant les litiges avec la femme enceinte grâce à de solides contrats. L'industrie pharmaceutique, quant à elle, plébiscite également la GPA, puisque la GPA nécessite une PMA, donc une constante augmentation de produits et de tests que les cliniques devront acheter, par exemple le diagnostic préimplantatoire. GPA, une industrie biocoloniale. Suivant la logique capitaliste, les diverses régions du monde se spécialisent afin de maximiser les profits. Le marché déplace constamment ses usines, évidemment, à la recherche de misère, on connaît, qu'il va dans les régions où la main-d'œuvre est moins chère. Le prix de l'ovule varie en fonction des caractéristiques de la donneuse. Donneuse qui, en fait, est souvent une vendeuse, c'est un euphémisme. En général, la phase d'extraction des ovules est effectuée sur des femmes blanches et pauvres, par exemple dans les pays de l'ancien bloc de l'Est. Après l'extraction, la production. Les embryons sont implantés dans le ventre de femmes de pays à faible revenu, et ça tombe bien, les gestatrices n'ont pas besoin d'être blanches pour que le bébé soit blanc. L'industrie de la fertilité est donc un biocolonialisme qui délocalise la production, tout en garantissant des traits phénotypiques de l'enfant, conforme à une demande racialisée, voire raciste. Un cheptel standardisé. Pour remplir son catalogue, l'industrie a besoin de normes et de standards. Elle instaure donc des critères de sélection du cheptel des mères porteuses les plus rentables selon les pays, conditions physiques, situation familiale, etc. Ces critères de sélection fluctuent en fonction de l'offre et de la demande. Ce casting dégradant rappelle les marchés aux esclaves. Les cliniques et les agences imposent également leurs propres exigences, comme par exemple des examens surprise pour vérifier que la mère porteuse ne fume pas. Si elle ne respecte pas ces règles, elle risque d'être contrainte à avorter. Et du côté client, la seule attente est qu'il soit en mesure de payer. La GPA, une technologie. Le livre « Ventre alloué » est paru aux éditions L'Échappée, dans la collection Frankenstein. C'est une collection technocritique. À ce titre, on ne sera donc pas surpris de trouver un chapitre entier critique des technosciences et des biotechnologies, c'est-à-dire en fait des moyens par lesquels les hommes et les technocrates augmentent leur puissance sur le corps des femmes afin de s'approprier, maîtriser et instrumentaliser leur pouvoir reproducteur. Sylvia Guérini rappelle dans ce chapitre que pour exister, la GPA requiert, justifie et renforce la technologie de reproduction artificielle. Ces techniques font système. Une critique radicale doit donc être menée sur l'ensemble et non seulement sur une partie ou sur ses prétendues dérives. Je cite Sylvia Guérini. La technologie a transformé le désir d'enfant en un projet, détruisant tout un monde de sentiments, d'émotions, de pensées et de relations. La planification d'un enfant ne connaît alors qu'un langage froid, élaboré par des spécialistes et des techniciens. Fin de citation. Sylvia expose aussi l'eugénisme, qui sert de moteur et de direction à la recherche génétique, et est présent dès les origines des techniques de reproduction artificielle. Je cite « La notion de pureté raciale a aujourd'hui été remplacée par l'idée de santé parfaite et d'enfant parfait. L'eugénisme revêt donc un nouveau visage, librement accepté, et recourt à une forme de soft power qui ne repose plus sur la coercition, loin de la violence de l'eugénisme nazi. Avec la mère d'intention, les parents d'intention, le projet parental et la déclaration préalable, l'être humain n'a plus d'histoire, d'origine. Il est réduit à l'assemblage eugénique de l'ovule et du sperme pour combler le désir narcissique du consommateur qui veut avoir un enfant à tout prix. La reproduction artificielle de l'être humain n'a rien à voir avec la lutte pour l'égalité des minorités. Ce dont il s'agit en réalité, c'est la soumission de tous à un système technoscientifique, et la PMA pour toutes n'est pas un slogan émancipateur, c'est le futur auquel nous pourrions bien être condamnés. Fin de citation. La GPA constitue donc peut-être un progrès technique, mais certainement pas un progrès social. Deuxième partie, nuisances pour les enfants. Dans cette partie, nous allons examiner les nuisances de la GPA, tout d'abord pour les enfants nés par GPA, et ensuite pour les normes d'adoption en général. Alors, les enfants nés d'une GPA. Des enfants négociés et vendus. La GPA, clairement, est la vente d'un enfant. Une partie significative du paiement se fait au moment où l'enfant est remis. D'ailleurs, si la mère porteuse change d'avis et finalement ne donne pas l'enfant, elle rompt le contrat et ne recevra pas l'argent promis. C'est une vente. Comment l'enfant se sentira-t-il lorsqu'il apprendra avoir été acheté pour le prix d'une voiture de luxe? Probablement dévalué et en colère. Aujourd'hui, déjà, des milliers d'adultes, conçus par donneurs de sperme ou donneuses d'ovules, sont désespérés de retrouver leurs parents génétiques pour en savoir un peu plus sur eux ou leurs antécédents médicaux. Problèmes de santé. Les enfants nés d'une fécondation in vitro rencontrent de graves problèmes de santé à l'âge adulte, liés à des problèmes cardiovasculaires pour la plupart. Et en réalité, on dispose de peu d'études valables sur les conséquences à long terme de la GPA sur les enfants. Aucune étude ne prouve que la séparation avec la mère gestationnelle n'a pas d'effet négatif. En revanche, suite aux adoptions massives en Australie dans les années 50, 60, 70, on a un peu de recul sur l'adoption. On sait que les adoptés, quelle que soit la perfection apparente de leur adoption, ces enfants partageaient les mêmes sentiments accablants de déconnexion, de solitude, de perte, de rage. Et rien n'indique qu'un nouveau-né retiré à sa mère dans le cadre d'une GPA sera moins stressé par cette perte que dans le cadre d'une adoption. En outre, des études sur les primates et les humains montrent que la séparation maternelle est non seulement stressante pour le bébé, mais qu'elle peut être un facteur de stress auquel le nouveau-né humain n'est pas en mesure de faire face. Et le stress ressenti dans la petite enfance a des effets à long terme sur le développement neurologique. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Les enfants adoptés, bien qu'ils ne puissent pas se souvenir de la séparation avec leur mère biologique, conservent un profond sentiment d'abandon. Des enfants objectifiés, disposer d'un être humain, fût-il un nourrisson, c'est le traiter en objet et lui dénier toute appartenance à l'espèce humaine. Par ailleurs, offrir ou donner un enfant à la naissance contrevient à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Il n'est plus considéré comme un sujet de droit. On en dispose comme d'un objet de transaction. La GPA attaque et sacrifie donc la reconnaissance d'une humanité commune. Et puis, une atteinte à la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. La GPA nuit au droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux si possible, c'est l'article 7 de cette convention. Elle nuit au droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, c'est l'article 8. À la protection contre l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants, à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit, c'est l'article 35. Vous avez le lien dans l'article sur le blog. Nuisance pour les enfants, cette fois au niveau des normes d'adoption. Avant toute chose, il faut rappeler que la GPA et l'adoption sont deux pratiques bien différentes. L'adoption est un acte de solidarité. La situation des parents biologiques les conduit à assurer le bien-être de l'enfant en le confiant à l'adoption. Les normes internationales en matière d'adoption indiquent clairement comment les enfants peuvent être protégés et ne pas être considérés comme des marchandises. En cas d'adoption, les parents ou la mère biologique établissent un acte de renonciation, mais disposent d'un délai pour revenir sur la décision. Les parents adoptifs doivent d'abord être recherchés dans le pays de naissance de l'enfant, et en cas d'échec, à l'étranger. Ces normes sont nécessaires pour garantir qu'un enfant n'est adopté que sur décision des parents naturels ou par nécessité, eu égard au bien-être de l'enfant. Dans la procédure de GPA, aucun de ces critères n'est généralement appliqué. La GPA est un acte de dépersonnalisation et de discontinuité des relations familiales intentionnellement imposé à vie à l'enfant. Il faut ensuite rappeler que l'adoption, même si elle est parfois la moins pire des solutions, est une expérience intrinsèquement traumatisante pour l'enfant. Si l'adoption est pratiquée, elle doit l'être dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, avec la GPA, l'enfant est spécifiquement commandé et acheté pour être abandonné et séparé de sa mère biologique. La GPA entraîne un trauma qui aurait pu être évité. En aucun cas, il ne s'agit donc d'une pratique dans l'intérêt de l'enfant. Dans un chapitre consacré à l'adoption, Catherine Lynch, elle-même enfant adoptée, explique, je cite, « Avant la GPA moderne, la cruauté du retrait des nouveau-nés pour l'adoption était justifiée par la volonté de les sauver de l'illégitimité ou de les sortir des orphelinats ou des griffes des mauvaises mères. La GPA va encore plus loin, puisqu'elle n'exige plus aucune de ces justifications. En effet, des êtres humains sont créés expressément dans le but d'être enlevés. » Fin de citation. Troisième partie, nuisance pour les femmes. La gestation pour autrui est un moyen profondément inhumain d'exploiter les femmes, en les réduisant à l'état de reproductrices, d'incubateurs ou de pourvoyeuses de pièces détachées pour produire des enfants marchandises. Comme l'écrit Jenny Fremond en 1987, la GPA est une relation intrinsèquement inégale, impliquant la réification, la vente et la marchandisation du corps d'une femme. Dans cette troisième partie, nous allons examiner les nuisances de la GPA pour les donneuses, vendeuses d'ovocytes, pour les mères porteuses, pour les femmes pauvres. Nous verrons que cette pratique s'accompagne également d'un langage déshumanisant, de violences consenties par contrat et du parallèle qu'on peut établir avec la prostitution. Nuisances pour les donneuses et vendeuses d'ovocytes. On peut lister injections dangereuses pour surstimuler les ovaires, risque pour la fertilité, risque de cancer, risque de mort, et mise en compétition sur des critères biologiques, esthétiques, raciaux, productivistes. Nuisances pour les mères dites porteuses. Alors, elles sont nombreuses, attention. Administration de produits hormonaux dangereux avant insémination. En Inde, certaines femmes se voient implanter des embryons à répétition, parfois jusqu'à 30 tentatives, et plusieurs embryons à la fois, jusqu'à 5 en même temps. Supporter une grossesse entière, accouchement en général par césarienne, complications médicales et psychologiques potentielles, dépression chronique, incitation à se dissocier des sentiments pour le nouvel être humain qui se développe dans leur ventre et à développer un trouble dissociatif de l'identité. Je cite une mère porteuse, « J'ai ça en moi, je sens que cela ne fait pas partie de mon corps, j'ai l'impression que cette grossesse se déroule à côté de moi, mais pas en moi. » C'est de la dissociation. On continue. Interventions intrusives comme les avortements sélectifs in utero. Les clients décident combien et quels embryons ils veulent avorter. Surveillance intense de leur activité, de leur alimentation, assignation à domicile. Et enfin, risque de mort. La GPA exige un sacrifice des femmes pauvres. Pourquoi les femmes riches ne sont-elles jamais mères porteuses pour des femmes pauvres et stériles ? Étrange, non ? La plupart des mères porteuses sont des femmes précaires, sacrifiées pour des personnes plus aisées. À l'échelle globale, les pays pauvres sont exportateurs et les pays riches, importateurs. Les inégalités structurelles et le patriarcat ont rendu le corps des femmes pauvres facilement disponible pour les parents intentionnels de l'élite des pays riches et de l'Asie. C'est un signe clair de la recolonisation capitaliste du corps et du travail des femmes et de la marchandisation des enfants. Parfois, des scandales retentissent en Asie et les législations sont modifiées. L'industrie de la GPA cherche alors de nouveaux marchés dans d'autres pays. Vraiment, ils sont attirés par la misère. C'est pourquoi, selon Phyllis Schessler, la GPA est une nouvelle forme de guerre pour la garde des enfants opposant les gens riches aux femmes pauvres. Euphémisme et langage déshumanisant. La pratique de la gestation pour autrui s'accompagne d'un nouveau langage déshumanisant. Berta Garcia, coprésidente de la Coalition internationale contre l'exploitation reproductive, dénonce la fausse bienveillance hypocrite du nouveau langage inclusif. Je cite. Parmi les adeptes de la doctrine queer, la dernière tendance est d'utiliser un langage faussement inclusif. Il y est question de « personnes en gestation » ou de « corps en gestation » et non de « femmes en gestation » ou de « mères en gestation » afin d'effacer précisément les mots « femme » et « mère ». Mais dans le monde réel, cette nouvelle langue n'a pas cours et on voit bien que ce sont des femmes, et uniquement des femmes, qui font l'objet d'une soigneuse sélection pour être utilisées comme mères porteuses. Tout cela est évident, parce qu'en matière d'exploitation, personne n'a le moindre doute sur ce qu'est une femme et sur la fonction de ses organes sexuels et reproducteurs. Voilà pourquoi ces critères de sélection concernent exclusivement des femmes. C'est précisément ici que la réalité matérielle ne peut pas être remise en question. Fin de citation. Ce que Berta Garcia expose très clairement ici, c'est que, parallèlement au développement de l'industrie de la fertilité, avec l'idéologie queer et le langage soi-disant inclusif du mouvement transgenre, ce sont en fait les femmes et les mères, les principales concernées, qui sont au final exclues de leur propre catégorie. Comble de l'inversion, elles sont exclues au nom de l'inclusion. En empêchant de nommer correctement les problèmes, on sape toute possibilité d'y faire face. L'effacement de la notion de sexe biologique dans le langage et dans la politique a de terribles conséquences quand on sait que la violence et l'oppression subies par les femmes sont fondées sur le sexe. Les euphémismes dissimulent les violences contre les femmes, déshumanisent les mères dites porteuses et les substituent par les clients. Dans la liste de la triste réalité de la GPA pour les femmes, il y a le contrat sordide, un véritable consentement aux violences. Qu'est-ce qu'un contrat ? Un contrat, c'est un accord entre deux parties. Dans une relation de pouvoir, d'inégalité, entre les deux parties, le contrat permet de dissimuler ces inégalités derrière la vitrine du choix libre et éclairé. Ainsi, le contrat de GPA pousse la mère porteuse à consentir aux violences, comme par exemple au risque de dépression, de perte d'un organe ou d'une hémorragie parfois mortelle. Le contrat demande parfois à ce que seuls les commanditaires prennent les décisions médicales, notamment en ce qui concerne l'insémination, la résiliation, un éventuel avortement, les modalités et dates de l'accouchement. Les contrats les plus détaillés imposent un grand nombre de contrôles de qualité pour que l'enfant soit conforme aux attentes. Et si les clients changent d'avis, ils peuvent interrompre la grossesse, une option généralement refusée aux mères porteuses. Exemple de l'Inde. En Inde, des contrats sont soumis aux mères porteuses en anglais, qu'elles signent sans pouvoir les lire. Elles le reçoivent habituellement après 4 mois de grossesse et elles ne peuvent plus faire marche arrière. Ces femmes sont soumises à des interventions pour lesquelles elles n'ont pas été consultées et qu'elles ne comprennent pas, des atteintes corporelles proches du viol. Les femmes sont dépouillées de leur liberté, de leur autonomie et de leur choix, leurs organes et fonctions reproductives triés et exploités à des fins lucratives. Le paiement est effectué par petits versements chaque mois, souvent appropriés par le mari, ce qui permet de l'interrompre en cas de fausse couche ou en cas d'avortement. La rétribution financière est gardée tant que la mère porteuse n'a pas signé le contrat qui la fait renoncer à ses droits sur le bébé. Prostitution sexuelle et prostitution reproductive. Les autrices de cet ouvrage établissent alors un parallèle entre prostitution et GPA. Prostitution sexuelle d'un côté, reproductive de l'autre. Les deux cas constituent une expression flagrante et brutale de la violence contre les femmes, intimement liée à la politique sexuelle patriarcale. Pour faire le parallèle entre les deux prostitutions, on a la subordination, les clichés et les traumatismes. Alors, du côté de la subordination, pour que les transactions que sont la prostitution et la GPA puissent avoir lieu, il faut une classe de femmes réifiées, transformées en marchandises, déshumanisées et subordonnées. Comme un client de la prostitution explique, je cite, « Être avec une prostituée, c'est comme boire son café dans un gobelet. Lorsque vous avez fini, vous le jetez. » Eh bien, si la prostitution, c'est louer un organe pendant 10 minutes, la GPA, c'est louer un utérus. Du côté des clichés sexistes, telle industrie, tel cliché. D'un côté, le proxénétisme a besoin de diffuser une image des femmes prostituées comme débauchées, vicieuses, sexuellement insatiables. Et de l'autre, le proxénétisme reproductif propage l'idée des mères porteuses comme reproductrice pleine d'empathie. Et les traumatismes ? Les préjudices psychologiques causés par la prostitution se rapprochent en partie de ceux causés par la GPA, comme la dépression, le syndrome de stress post-traumatique ou les troubles dissociatifs. Dans les deux activités, l'aptitude à la dissociation est considérée comme une compétence, un gage de « professionnalisme », entre guillemets. Et comme dans la prostitution, un nombre croissant de filles, mineures, sont utilisées pour réduire les coûts de production des GPA. Quatrième partie de ce podcast, les arguments pro-GPA. Enfin, certains arguments pro-GPA, à peu près intéressants. Comme le disent les autrices, la réalité de la GPA et de ses nuisances devrait normalement suffire à discréditer cette pratique. Pourtant, d'aucuns continuent de la défendre. C'est effectivement ce que j'ai remarqué, jusque dans certains de mes cercles d'amis, où des personnes que je connais se sont mises à défendre la gestation pour autrui, à l'envisager, à pas voir le problème. Ça me semble très surprenant. Et c'est intéressant d'examiner leurs arguments pour essayer de comprendre ce qui les pousse à faire la promotion de l'esclavagisme. On va essayer un petit peu de se mettre à leur place et on va se rendre compte que leurs arguments sont basés sur des stéréotypes, sur des mythes patriarcaux et sur une conception libérale de la liberté. Alors, stéréotypes et mythes patriarcaux. L'altruisme féminin, pour commencer. Les récits pro-GPA construits par l'industrie des mères porteuses valorisent les rôles de genre ultra-traditionnels pour les femmes, c'est-à-dire fonction reproductive, sacrifice de soi pour la famille, générosité féminine, désir des femmes de faire du bien à autrui, à faire un don. L'altruisme est sans surprise exclusivement du côté de la mère porteuse et jamais des commanditaires. Isabelle Guérin rappelle que la femme a été de tout temps un symbole du don. Par exemple, dans la mythologie grecque, la première femme a pour nom Pandora, ça signifie celle qui donne tout. Homme procréateur, femme gestatrice. Alexandra Clément Sabi inscrit la GPA dans l'histoire longue du patriarcat, des mots et des mythes qu'il a créés. Sans ses représentations du monde profondément enracinées dans la culture et l'imaginaire, la GPA ne pourrait pas rencontrer un tel soutien. Je cite. Traditionnellement, les hommes se servent des femmes pour avoir des enfants qui porteront leur nom. En échange, celles-ci sont entretenues et bénéficient d'une protection, mais en principe ne reçoivent pas de rémunération, sinon une dot dans certaines cultures. Les femmes tirent leur statut social de ce rôle. La GPA présente de nombreux points communs avec cette organisation traditionnelle. De même, dans de nombreuses croyances, les hommes sont considérés comme seuls procréateurs. Ils font les enfants, les mettent dans le ventre des femmes et les récupèrent ensuite. Durant des millénaires, dans les représentations culturelles, les femmes ont mis au monde des enfants qui, croyait-on, n'étaient pas de leur sang et dont elles étaient seulement les gestatrices. Le gamète femelle, l'ovule, n'a été découvert qu'en 1827. Fin de citation. Françoise Héritier a aussi rappelé que dans Mains de société, les femmes se voient attribuer un simple rôle de gestatrice, selon des métaphores plus ou moins gracieuses, sac, besace, pirogue pour passer d'une rive à l'autre, pot ou marmite où s'opère une cuisson. Aujourd'hui encore, l'expression en apparence inoffensive « papa a mis la petite graine dans le ventre de maman » oublie l'équivalent maternel. Le rôle de la mère se borne à réchauffer ou nourrir l'embryon contenu dans la graine du père. En réalité, au sens strict, la graine est le produit de l'activité femelle et non mâle d'une plante. Cette métaphore n'a rien d'anodin. Elle véhicule la théorie du préformisme mâle, selon laquelle l'enfant est issu du père et que la mère n'est qu'un logement, de la nourriture, un sac, une poche, voire juste un trou à bébé. Ainsi, les mères porteuses ne seraient que des nourrices et la donneuse d'ovules n'est pas plus considérée comme une mère, sauf si elle fait partie des commanditaires. Lien materno-fœtal. En réalité, même lorsque la mère porteuse n'est pas génitrice, il existe des échanges entre elle et l'enfant durant la grossesse. Ce lien materno-fœtal permet à la mère enceinte de développer dès les premiers stades la capacité de répondre aux besoins du fœtus et de créer un lien émotionnel et affectif avec lui. Ce lien est renforcé à la naissance et lors de l'allaitement. On parle de lien d'attachement. Le lien physique est probablement encore plus profond que ce qu'on imagine. On connaît depuis 1979 l'existence d'un processus assez fascinant, le microchimérisme fœtal. Alors c'est le passage des cellules de la mère dans le corps de l'enfant et inversement, dans les deux directions. les deux organismes, la mère et l'enfant, intègrent ainsi un faible pourcentage de l'ADN de l'autre dans le cœur, dans le foie, dans le cerveau, etc. Et c'est une relation qui perdure des décennies après l'accouchement. Ces échanges apportent de nombreux bénéfices à la mère et au futur bébé. Par exemple, ils contribuent à la cicatrisation des blessures et des lésions internes, participent à la réduction de symptômes tels que les douleurs de l'arthrose et renforcent le système immunitaire. Les cellules du fœtus peuvent participer à la réparation du cœur de la mère et les cellules maternelles peuvent aider un enfant à lutter contre le diabète. Argument, la GPA, c'est la liberté. Ça, c'est l'argument libéral, basique et hypocrite. Selon cette conception, la liberté, c'est en fait la liberté de se soumettre et d'être vendu pour la femme. L'émancipation, c'est d'être utilisée comme une gestatrice et d'offrir des enfants à d'autres personnes. L'expression du consentement de la victime à la violence qu'elle subit est présentée par le marché ultralibéral comme le nec plus ultra de l'autonomie et de la liberté de la personne devenue victime, comme dans le système prostitutionnel. La GPA est reconnue comme une émancipation dans la mesure où le choix des femmes épouse fidèlement les intérêts du capitalisme patriarcal. Consentir par contrat à subir des violences, voire à perdre la vie, pour faire le bonheur d'autres personnes, est cependant loin d'être une manifestation de la liberté. Argument, la GPA, c'est l'égalité. La légalisation de la GPA serait le remède, nous dit-on, au fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Grâce à la GPA, tout le monde aurait ainsi les mêmes chances d'avoir des enfants. Rappelons tout d'abord que la GPA expose les femmes à de nombreux risques tels que l'exploitation, la marchandisation, l'utilisation de leur corps, entraînant des effets physiques et psychologiques. Par ailleurs, si des personnes ne peuvent pas avoir d'enfants pour des raisons biologiques ou médicales, cela peut paraître injuste, c'est vrai. Mais ce n'est pas une discrimination. Oui, tout le monde devrait avoir les mêmes chances de fonder la famille de ses rêves, mais si cela doit se faire au détriment des droits d'autres individus, en l'occurrence des femmes et des enfants, l'argument de l'égalité ne tient absolument pas la route. Par souci d'égalité, personne ne devrait y recourir, quelle qu'en soit la raison. Argument, la GPA, c'est l'autonomie. Les femmes devraient avoir le droit à l'autonomie reproductive, de disposer de leur corps sans ingérence du gouvernement, ni de quiconque. La GPA devrait donc, à ce titre, être légalisée, au nom du droit à prendre par soi-même des décisions et des risques en toute responsabilité. Toujours selon cet argument, s'opposer à la GPA mettrait en danger le droit à l'avortement. Cependant, la maternité de substitution n'a pas grand-chose à voir avec le droit de choisir quand on examine les circonstances et conditions sociales et matérielles dans lesquelles ces choix sont effectués. Dans les faits, ils sont dictés par des contraintes économiques. On ne peut donc pas vraiment parler de libre choix. Si la grossesse est réalisée dans des conditions de contrainte, comme la pauvreté est une contrainte, il s'agit d'une grossesse forcée. Légaliser la GPA revient à violer le droit des femmes à être protégées des grossesses forcées. Dans ces conditions, le sophisme du libre consentement rend les femmes volontairement responsables de la violence dont elles sont victimes dans les différents domaines de l'industrie du sexe et de la reproduction. L'interdiction de la GPA ne met pas en danger le droit à l'avortement. Au contraire, considérer une femme comme le réceptacle d'un bien qui appartient à des parents d'intention porte atteinte aux droits des femmes à l'avortement. L'embryon ou fœtus fait corps avec la femme. C'est à elle qu'il appartient d'interrompre ou non une grossesse et non pas aux autres individus qui profitent de la maternité de substitution. Au Canada, des agences proposent des contrats de GPA dits altruistes dans lesquels on peut lire que la mère porteuse accepte de ne pas recourir à un avortement, à moins que ça ne soit médicalement requis et approuvé par les parents d'intention. C'est ici que le droit à l'avortement est menacé. De plus, la maternité de substitution ne concerne pas seulement le droit individuel d'une femme à décider par elle-même. La question fondamentale est de savoir si le préjudice est suffisamment important pour justifier de restreindre la GPA. C'est une question d'ordre politique. Or, légitimer cette pratique touchera de nombreuses autres femmes, puisqu'elle est irréconciliable avec le fait de considérer autrui comme un humain à part entière qui doit être traité avec dignité et égalité. Et enfin, si on met l'accent sur le groupe le plus vulnérable, c'est-à-dire les enfants, des rapports pointent les nombreuses nuisances liées à la GPA. Sa légalisation n'est donc pas conforme au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et enfin, l'argument de la GPA altruiste ou éthique. C'est un peu souvent les mêmes arguments, hein. À chaque fois, libéralisme, pensée libérale contre pensée radicale, c'est pas toujours la même chose. Bon, alors, une chercheuse espagnole dit que 98% des GPA dans le monde sont des GPA commerciales. Mais on peut envisager toutes les GPA comme commerciales, quel que soit l'habillage juridique ou marketing, dans la mesure où tout le processus est orchestré de façon commerciale, c'est-à-dire juriste, laboratoire, clinique, psychologue, agence intermédiaire, etc. Légaliser et réglementer une GPA dite éthique, altruiste et non commerciale permettrait, nous dit-on, de se protéger de ces dérives. Cet argument part du principe que, quoi qu'il arrive, la GPA existera, donc autant réduire ses nuisances, ses dérives. Voilà, bon, bah, si on transpose, cela revient à réglementer l'esclavage, à négocier la longueur des chaînes, à promouvoir l'esclavage solidaire, altruiste, moins brutal, plutôt que de l'abolir, et d'accuser les abolitionnistes d'être responsables des dérives. Tout d'abord, si on parle de solidarité, pourquoi c'est aux pauvres d'être solidaires des riches? Si les riches sont à la recherche de solidarité, qu'ils donnent plutôt de l'argent aux pauvres, sans enfants en contrepartie? Ça, c'est de la solidarité. Ensuite, la GPA éthique. C'est la stratégie du loup dans la bergerie. Dans une logique de marché, lorsqu'il y a une offre sur une base altruiste, on voit croître rapidement la demande de mères porteuses, et très vite, une pénurie s'installe. On manque de mères porteuses gratuites. La GPA commerciale, déguisée en GPA altruiste, apparaît alors comme la solution. Les GPA dites altruistes sont le cheval de Troie des GPA commerciales. Elles servent de brèche pour mettre en place les procédés nécessaires à la marchandisation du corps des femmes et des enfants. Une fois qu'un consensus social est établi et que l'on accepte l'idée de commander un enfant et de louer le ventre d'une femme, un pas est franchi. Cinquième partie, stratégie pour en finir. Ventre à louer donne plusieurs pistes stratégiques afin de réduire la demande et d'en finir avec la GPA. Nous allons les examiner. Première stratégie, prise de conscience. L'ouvrage encourage à favoriser la prise de conscience à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il semble nécessaire de comprendre qui sont les gens prêts à recourir à la GPA et ce qui les motive à adopter un comportement aussi profondément immoral. Alors, quelles sont les raisons données par les personnes qui ont recours à la GPA? Premièrement, l'augmentation de l'infertilité. Ça peut être à cause du mode de vie, des carrières professionnelles, des pollutions environnementales. Deuxièmement, c'est la conviction de devoir donner naissance et de former une famille pour se réaliser pleinement. Dans notre monde patriarcal, les femmes apprennent à devenir de futures mères de façon systématique. De nombreuses femmes perçoivent le fait de renoncer à avoir un enfant comme une insulte personnelle et la preuve d'un manque d'engagement envers l'idée de famille et la GPA constitue parfois l'aboutissement d'un acharnement de plusieurs années. Et troisièmement, désir de transmettre son patrimoine génétique à tout prix. Autre levier de prise de conscience sur l'adoption, démystifier l'adoption, nous devons écouter les témoignages des adoptés et s'instruire sur ce qu'ils et elles vivent et ressentent réellement. Et bien sûr, critique de la féminité, par bienveillance ou par empathie, les femmes ont l'habitude de passer en deuxième ou troisième position et finissent par souffrir. L'ouvrage invite donc les femmes à l'introspection, en discutant entre femmes des valeurs féminines qui sont valorisées, l'empathie, la compassion, l'altruisme, et se demander si les sentiments d'empathie et de compassion, lorsqu'ils nécessitent de nuire à sa santé ou à sa vie, sont justifiés, ou bien s'ils constituent un piège. Une autre stratégie porte sur les hommes gays aisés, car en effet, ils sont de nouveaux promoteurs de la GPA. Outre les couples hétérosexuels infertiles, les hommes gays aisés aussi stimulent le marché de la GPA. Après avoir obtenu le droit de se marier dans certains pays, l'hétérosexualisation continue, mais l'adoption reste parfois compliquée. Or, pour que deux hommes gays aient un enfant qui possède en partie leur propre gène, ils ont besoin d'exploiter deux femmes, la mère naturelle et la vendeuse d'ovocytes. Conformément à la domination des hommes et la soumission des femmes dans le patriarcat, certains hommes gays prennent pour acquis que deux femmes se dévoueront afin de réaliser leur souhait d'avoir un enfant biologiquement apparenté. Nous devons leur rappeler qu'il n'existe aucun droit à l'enfant. Se préoccuper de la sécurité et de la dignité des femmes n'est pas homophobe. On peut se référer notamment au travail de Gary Powell, défenseur des droits homosexuels, opposé à la GPA. Troisième piste, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Bon, c'est... Parfois, il faut le rappeler. Il est difficile de discuter avec des personnes narcissiques et immatures qui pensent avoir tous les droits, même celui d'exploiter égoïstement d'autres femmes pour s'acheter un enfant, mais nous pouvons essayer de les convaincre en faisant appel à ce qu'il reste en eux de sens de la justice et de l'éthique, à leur volonté de ne pas faire mal aux femmes, et à ne pas considérer les nouveau-nés comme des marchandises. Nous avons tous des désirs profonds, et du chagrin lorsqu'ils ne peuvent pas être satisfaits. Du fait de la culture néolibérale, il devient difficile de faire la différence entre les désirs et les besoins, et le marché les transforme en droits. Il n'y a alors plus aucun problème à acheter ce qui est à vendre, si c'est légal, et si les moyens financiers le permettent, même s'il s'agit d'un enfant. Cependant, même si le désir d'enfant est légitime, aucun droit individuel à l'enfant ne peut en être déduit. Personne n'a droit à un enfant. Stratégie technocritique, résister à l'emprise technoscientifique. Critiquer les technologies de reproduction, s'y opposer, rendre nos corps indisponibles à la recherche, saper la civilisation industrielle avant que la technocratie n'établisse une domination absolue sur l'être humain et le vivant dans son ensemble. Et enfin, abolition de la GPA. L'ouvrage invite à s'organiser pour faire campagne et faire pression contre la légalisation. Il se conclut sur un texte rédigé par la SIAMS, la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution, un texte visant à rendre concrète l'abolition de la GPA sur le modèle des conventions internationales. Bon, quand un bébé naît par GPA, il est souvent utilisé comme un pion pour influencer le cœur et l'esprit des gens afin qu'ils ignorent les lois existantes dans les pays où c'est interdit. Mieux vaut donc arrêter les démarches des parents d'intention avant la naissance. Mais bon, quand la naissance a eu lieu et qu'on est devant le fait accompli d'un enfant né par GPA, Michel Sirois et Gylaine Chandron ont une suggestion. C'est de le confier à des parents adoptifs, évalués pour leur capacité parentale, plutôt qu'aux commanditaires qui l'ont acheté. Ça peut paraître radical, mais c'est une stratégie. Et sixième partie des critiques, je me permets d'autant plus que j'ai beaucoup aimé ce livre, que c'est vraiment un bon panorama, 23 €, édition L'Échappée, mais voilà, c'est la collection Frankenstein, c'est un grand format, c'est de la qualité, c'est chouette, c'est vraiment agréable à lire. Mais voici mes quelques critiques. Bon, il y a des répétitions, évidemment, puisqu'il s'agit d'un ouvrage collectif, qu'il y a certains textes qui sont récents, d'autres plus anciens. Ils ont tous leur propre conclusion, qui parfois ça fait des redites d'un texte à l'autre, même si individuellement, chacun de ces textes pris individuellement, ils sont tous brillants. Concernant les injonctions à la maternité, la critique du lapinisme propre à la civilisation patriarcale, du conditionnement des femmes à se réaliser socialement par la procréation, cette critique figure dans un texte de Renata Klein, mais la question semble peu explorée au regard de son importance par rapport au sujet. Et le mariage dans tout ça ? Alors, c'est vrai que le parallèle est bien fait entre la GPA et la prostitution, entre GPA et esclavage, mais... sauf si j'ai raté des lignes, mais j'ai l'impression que le mariage s'en sort étonnamment bien. Alors peut-être qu'il y aurait un truc à explorer là. Pas de critique de l'État. Voilà, alors ça me pose problème. Sans nier leur intérêt, les stratégies envisagées dans les pistes stratégie se limitent surtout à des formes de plaidoyer envers les États et les organisations internationales, mais sans critiquer radicalement l'État comme institution patriarcale, indissociable du capitalisme industriel. Et ma dernière critique, c'est l'anthropocentrisme du livre. La question des droits humains, de la dignité humaine est centrale, c'est sûr, mais on se soucie peu du sort des autres espèces. Pourtant, les problèmes de natalité et stérilité humaine concernent le reste du monde naturel. Et ce qu'on fait aux femmes, on le fait aussi au bétail par le processus de domestication. Les biotechnologies ont été expérimentées et développées sur les céréales et sur les bovins avant de passer au bétail humain. La question des désirs, qui ne devraient pas devenir automatiquement des droits, concerne également notre rapport à la nature, d'autant plus vu l'écocide en cours. Ces quelques questions, j'aurai sûrement l'occasion de les poser à l'autrice du livre, Marie-Joseph, et puis d'autres questions d'ailleurs, puisqu'elle a accepté un entretien avec Floraison, donc ça devrait se faire prochainement si tout se passe bien. Voilà, je suis très content. Ça veut dire qu'on va reparler encore de GPA sur Floraison. On vous tient au courant. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous le plus possible, à mettre des bonnes notes, tout ça, si ça vous a plu. Vous pouvez nous soutenir soit par commentaire, soit en nous écrivant un message. Soit vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur Tipeee si vous en avez la possibilité. Ça nous aide à mener nos activités, à imaginer des podcasts de plus en plus ambitieux et parfois d'organiser des événements. Voilà, c'est toujours intéressant. À bientôt sur Floraison. Vive la liberté et vive l'anarchie.
But when people fight, that is something. It does grab the attention, and it should, because it's real stuff. It isn't just this symbolic game of, oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, no one gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop, and not even a window is broken. Ideal.
L'organisation ne profitera jamais qu'aux organisateurs. La technologie ne profitera jamais qu'aux technologues et aux technocrates. Point. Et tout le reste, que ce soit le monde naturel, avec ses minerais, ses matières premières, ou ses humains, ne sont jamais que les instruments et les moyens qu'utilisent la technologie et les technocrates pour arriver à leur fin, c'est-à-dire un surcroît de puissance. L'organisation cybernétique de la société, le gouvernement par la machine, c'est l'inverse rigoureux de l'anarchie. C'est exactement l'inverse.
Our planet is dying. Actually, she's being drawn and quartered. We are on the verge of complete biotic collapse. And that is 500 million years of evolution gone.
We are out of soil, we are out of species, and we are out of time. We really need to start thinking like a serious resistance movement, because this is a war. I know it's been going on 10,000 years, it feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder, what the fuck was wrong with us? That we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love call us to action.